Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, chef-lieu Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Quant au boulevard périphérique, il sera long de 36 km, nécessitera 148 ouvrages d'art et sera en service totalement dans 5 ans.
Là, c'est le bruit qu'on entend quand on ouvre les fenêtres. Il y a un bruit de fond, c'est H24, c'est tout le temps, même à 5h du matin, à 3h de l'après-midi, à midi.
Il se raccordera et se raccorde déjà aux autoroutes du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. On pourra ainsi faire le tour de Paris, le regard fixé sur l'aiguille du compteur. Seuls les amateurs de pittoresque emprunteront encore les chemins tortueux que nous empruntons chaque jour.
Dans la cuisine, c'est une des pièces qui donne vue sur le périphérique. Je dis vue, mais c'est pas un paysage magnifique. On entend le bruit de toutes les voitures et les motos. On essaie d'ouvrir les fenêtres le moins possible, même si il fait chaud. Il y a des petits, donc on n'ouvre pas trop les fenêtres pour pas laisser trop entrer de poussière.
En attendant, le Parisien d'aujourd'hui peste contre les embarras de la circulation, contre lesquels pestaient déjà ses ancêtres du siècle de Louis XIV. Mais il voit luire enfin le jour où il sera possible de se payer la tête du prochain et de concilier les deux qualités essentielles de Parisien et de piéton.
Les habitants de l'immeuble, il y en a beaucoup qui sont partis. Normalement, on sera relogé d'ici 4 mois. On attend encore.
Les deux extraits croisés que nous venons d'entendre sont complètement opposés, et pourtant ils traitent du même objet, qui est aussi le nôtre aujourd'hui, le boulevard périphérique.
En 1965, le périph, c'est avant tout une voie de circulation rapide qui va permettre de relier la France à Paris. C'est un moyen de lutter contre la congestion des maréchaux. En un mot, c'est un progrès.
En 2013, au contraire, comme nous l'avons entendu dans cet extrait de l'émission Bourdin & Co sur RMC, le périphérique est associé à la fois à une nuisance sonore et visuelle et à un risque pour la santé.
Alors forcément, nous nous sommes penchés sur cette contradiction apparente. Comment se traduit géographiquement cette opposition dans les représentations de l'espace, Corten ?
Nous nous sommes d'abord rendus à la porte de la Chapelle, qui fait la transition entre Paris et Saint-Denis, au nord de la capitale. Et ce qui nous a frappé, au-delà du bruit, c'est que le périphérique faisait vraiment office de frontière.
En effet, au niveau de cette porte, le périphérique est comme suspendu au-dessus de la ville. C'est une autoroute urbaine perchée, en quelque sorte. Plusieurs éléments nous permettent de parler du périphérique comme coupure, ici, et non pas comme couture.
Ah oui, coupure, couture. Ah oui, j'ai compris. Ils ont de l'humour, ces géographes.
Je disais donc, on sent à la Chapelle que l'on est vraiment dans un espace périphérique, dans tous les sens du terme. Pas seulement parce que c'est un espace loin du centre de Paris, mais aussi parce que c'est un espace de relégation.
Les lignes de train de la Gare du Nord, le centre de valorisation et d'apport des encombrements, géré par la ville de Paris, autrement dit une sorte de petite déchetterie, ou encore plus récemment le nouveau camp de migrants, qui est un centre humanitaire réservé aux hommes seuls et géré par l'association Emmaüs Solidarité, tous ces éléments consomment beaucoup d'espace et sont relégués à la périphérie parisienne.
C'est sûr que ça aurait été difficile d'installer cette grande bulle de 900 mètres carrés pour une capacité de 400 à 600 places sur la place du marché Sainte-Catherine.
Cette rupture Paris-banlieue est tout à fait entrée dans les représentations communes, comme on peut le voir dans le film de David Charnon, De l'autre côté du périph', avec Omar Sy et Laurent Lafitte. Ce film joue vraiment sur cette distinction entre Paris et sa banlieue.
Ah, d'accord.
Je suis sûr que t'es le meilleur flic de ta banlieue, mais ici c'est Paris.
Jérémy, notre collaboration s'arrête ici.
Ah, bonjour commissaire.
J'ai toujours été pour la synergie des services.
T'es un putain de lèche-cul en fait, toi.
Ce qu'a dicté vient de Bobigny.
Bobigny ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ?
De quoi ?
T'es malade ?
Bon, ici c'est 9-3.
Eh ben dis donc. Heureusement que les vaccins sont à jour.
Un autre signe qui confirme que la porte de la Chapelle est bien un point de rupture entre Paris et sa banlieue est le fait que, hormis quelques lignes de bus qui se feraient un chemin au milieu des espaces de triage de la SNCF et des friches industrielles, les réseaux RATP se raréfient dès qu'on passe le périphérique.
Sur place, nous n'avons pas du tout le sentiment d'un passage entre Paris et Saint-Denis. La ligne 12 du métro s'arrête un peu plus loin, à Aubervilliers. Le RER passe sans s'arrêter. Nous sommes surtout en présence d'un énorme échangeur routier qui fait le lien entre le centre de Paris et les autoroutes du Nord.
Cet exemple de la Porte de la Chapelle semble correspondre à l'image que l'on peut se faire traditionnellement du périphérique. Un périphérique nuisible, mais surtout symbole de tous les clivages entre Paris et sa banlieue, symbole de fracture de l'espace urbain.
L'idée d'une enceinte de Paris qui permet de distinguer la ville de sa banlieue n'est pas récente.
Le périphérique en tant que frontière physique entre Paris et sa banlieue semble s'être substitué aux murailles qui, au XIXe siècle, entouraient la capitale.
Le tracé du périphérique a d'ailleurs repris celui des fortifications élevées dans les années 1840 sur ordre d'Adolphe Thiers, alors ministre de la guerre. En 1846, une muraille ininterrompue de 33 km de long et de 6 mètres d'épaisseur encercle Paris.
Pour la petite histoire, l'enceinte fortifiée est la plus vaste jamais créée autour d'une ville. Ce qui ne l'empêche pas de se montrer totalement inefficace face aux Prussiens en 1870.
Elle est démolie entre 1920 et 1924. Et sur cette bande de terre devenue vide, on construit les premiers HLM, on construit des stades, des jardins publics ou encore la cité universitaire. Mais aussi et surtout, le boulevard périphérique.
Celui-ci est construit entre 1956 et 1973. L'objectif est de faciliter la circulation automobile autour de Paris et de permettre une liaison rapide entre la capitale et le reste de la France.
De nos jours, sur ces 35,5 km, circulent chaque jour plus d'un million de véhicules.
Hey mec, je me présente, je m'appelle Charles-Henri Dupré. J'habite à Neuilly dans un quartier mal paumé. Je suis fils unique dans un hôtel particulier. C'est la croix, la bannière pour me sustenter. Pas un arabe du coin, ni un euro marché. Haute Neuilly, Passy, tel est notre ghetto.
Après la Porte de la Chapelle, nous nous trouvons à présent au bois de Boulogne, Corten.
Mais qu'est-ce qu'on fait ici? On n'est pas censé suivre le tracé du périphérique?
Si, justement. Le périphérique, bien là, mais sous nos pieds.
Sous nos pieds?
Oui, le tunnel de cette autoroute urbaine passe juste en dessous de nous.
Donc si je comprends bien, alors qu'on était sous le périphérique Porte de la Chapelle, nous voici à présent dans le bois de Boulogne sur le périphérique?
Nous avons donc deux visions d'un même ouvrage urbain. À l'est et au nord de Paris, le périphérique est à ciel ouvert, mais il se retrouve sous terre dès la Porte d'Anières.
Et ce, pour préserver l'ouest parisien d'une coupure dans la continuité du bâti.
Exactement. Il y a eu, au moment de la réalisation du tracé du périphérique au milieu des années 60, une volonté politique d'enfouir celui-ci à l'ouest de Paris, afin de préserver la ville de Neuilly, le bois de Boulogne et le 16e arrondissement. Pastoret et ses coéquipiers du PSG seront ravis d'apprendre qu'il joue sur le périph.
Bertrand Lemoine, dans son article « Le fer et la route, les infrastructures », paru en 2006, écrit « Le deuxième maillon du périphérique, au droit du bois de Boulogne, est traité en 1970 avec beaucoup d'égards pour ne pas trop altérer l'agrément du bois et ménager le confort des riverains, tout en évitant l'hippodrome d'Auteuil.
Cela a dû nécessiter des coûts supplémentaires très importants. Dans le bois notamment, la nature du sol, composée d'argile et de sable, a rendu le creusement des tunnels difficile.
Sans oublier les frais de fonctionnement d'une telle infrastructure, qui doit être éclairée et ventilée en permanence une fois mise en service.
Mais rien n'est trop cher pour ne pas mettre en danger le bois de Boulogne et les quartiers résidentiels de Neuilly.
Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto.
Cela rejoint ce qu'écrivent Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot dans leur ouvrage « Les ghettos du Gotha », écrit en 2007. Pour eux, je cite, « Cette discrétion permet un face-à-face consensuel entre des voisins, neuilliens et parisiens. Les portes qui exigent de passer sous le périphérique et les implantations diverses qui dissuadent toute promenade à l'est deviennent plaisantes à l'ouest. »
Le périphérique, lors de sa construction, a donc bien fait l'objet de deux poids deux mesures. En cela, il illustre le fait que la ville est un lieu de sédimentation des inégalités qui inscrit dans sa structure et ses paysages le produit des rapports sociaux auxquels elle sert de cadre et de miroir. Ainsi que l'écrivent un peu plus loin les deux chercheurs du CNRS.
Donc nous avons bien deux politiques d'aménagement pour une même infrastructure, deux traitements d'un même objet géographique, deux traductions spatiales actuelles divergentes.
D'une part, un périphérique frontière, difficilement franchissable. D'autre part, un périphérique enterré qui rend le passage de Paris à une certaine banlieue très facile.
En 2006, les portes des Lilas, de Vanves, des Ternes et de Champéret ont fait l'objet d'un recouvrement du périphérique, dans le cadre du 12e contrat de plan État-Région Île-de-France. Car il faut savoir que la construction et l'entretien du boulevard périphérique sont partagés entre l'État, la région et la ville de Paris.
Il semble que cette politique de recouvrement menée récemment par la ville de Paris entre dans le cadre du projet du Grand Paris. Ici, recouvrir le périph', ce n'est pas seulement masquer une frontière nuisible, comme à Neuilly, mais c'est aussi reconstruire un lien entre Paris et sa première couronne de banlieue.
Il s'agit de dépasser cette coupure, à la fois physique, symbolique et sociale, en créant de la surface pour faciliter la circulation, mais aussi attirer de nouvelles activités à l'interface entre Paris et sa banlieue.
Malgré le fait que ces ouvrages soient encore très ponctuels, ils sont tout de même répartis sur l'ensemble du périphérique, et plus seulement cotonné à l'ouest parisien. C'est le cas de la Porte des Lilas, où nous étions déjà allés pour l'émission sur la ligne 3 bis.
Et nous nous étions déjà rendu compte de cet effacement de la frontière du périphérique par la construction d'une dalle. Sur ces nouveaux 15 500 m2, s'y trouvent désormais des espaces verts, une cité universitaire, le cirque électrique et un cinéma. Le tout relié à Paris et aux Lilas par un important réseau de bus.
Sport, culture, éducation, logement et nature ont investi ce nouvel espace qui devient ainsi, à proprement parler, un territoire.
Et ce territoire s'intègre, en tant que synapse, dans un espace désormais plus vaste qui relie le 20e arrondissement à la commune des Lilas.
Et c'est pas fini.
Pourquoi c'est pas fini ?
Parce que cette volonté des acteurs publics de recréer du lien entre Paris et la Petite Couronne se retrouve dans des projets urbanistiques et architecturaux.
En réponse à l'appel à projet « Réinventer Paris » mené par la ville de Paris en 2014, les architectes Su Fujimoto et Manal Rajdi ont conçu un bâtiment sur le périphérique. Ce projet, intitulé « 1000 arbres », se situe sur le boulevard Pershing au niveau de la Porte Maillot.
Il s'agit de transformer ce lieu sur le périph', symbole de tous les clivages entre Paris et sa banlieue, en un lieu symbole du vivre ensemble dans le Grand Paris. Selon les mots de Philippe Journeau, président de la compagnie de Phalsbourg qui porte le projet.
Par une intégration de préoccupations écologiques et sociales, par l'intention d'associer en un même lieu des logements mixtes, des bureaux, un hôtel, une gare routière et un pôle dédié aux enfants, le projet 1000 arbres constitue un quartier à lui tout seul.
Les ambitions portées par le recouvrement de 2006, donc sur la Porte des Lilas ou de Vanves, sont ici à nouveau affirmées par l'élaboration d'un véritable territoire, toujours intégré à son environnement urbain.
1000 arbres est un pont entre Paris et sa banlieue, mais un pont habité et vivant. Il ne se limite pas à la simple fonction de passage entre deux espaces, mais est conçu en soi comme un cadre de vie.
Si certains pourront critiquer le coût et le gigantisme du projet qui va bouleverser le paysage urbain, ça n'en reste pas moins un projet novateur dans le traitement des problèmes posés par le périphérique parisien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Espèces d'espace.
Au cours de cette émission, nous avons rencontré quatre traductions spatiales distinctes du périphérique. Coupure à la Porte de la Chapelle, enfouissement à Neuilly, recouvrement à la Porte des Lilas et intégration dans un quartier avec le projet 1000 arbres.
Et au-delà des nuisances associées au périphérique, nous nous sommes surtout rendus compte que l'appropriation de cette autoroute urbaine dépendait en grande partie des liens déjà existants entre les quartiers périphériques de Paris et les différentes villes de la première couronne.
Mais la distinction opérée par Passon et Pinson-Charlot entre un ouest qui ne subit pas les désagréments liés au périphérique et un nord-est où il fait toujours frontière a tendance à être aujourd'hui nuancée. Les projets de recouvrement et de cohésion urbaine concernent désormais des points répartis sur l'ensemble du périph'.
Oui Alexandre, mais même si ces projets se multiplient, ils restent assez circonscrits à une échelle très locale. L'idéal porté par le Grand Paris d'une continuité urbaine et sociale globale entre Paris et ses communes de banlieue semble être limité par un périphérique qui, en de nombreux points, s'impose toujours comme une frontière urbaine.
Merci d'avoir écouté cette cinquième émission d'Espèce d'Espace.
Et rendez-vous sur radiocampusparis.org à la page Espèce d'Espace. Dollars and cash.